Ben voilà, nous voilà de retour. Le collectif féministe de Bourg reprend vie. C'est reparti grâce à la diffusion d'un documentaire. Jilani Gorab a rencontré des femmes de la communauté Emmaüs Bourg-en-Bresse-Servas. Elle raconte le périple qui les a conduits jusqu'à Servas. Ce documentaire a été diffusé à Bourg, c'était le 25 novembre 2022, jour de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Un bel accueil à ce travail, une salle comble. Et de là, s'en est suivie la volonté d'organiser la journée du 8 mars avec des femmes présentes ce soir-là. Et bien voilà, c'est reparti.
Bonjour Joël.
Ben bonjour.
Bonjour Marie.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Nous sommes toutes membres du collectif féministe de Bourg et nous vous proposons de nous retrouver tous les mois dans cette émission. Nous aborderons diverses thématiques en lien avec les droits des femmes et nous serons plusieurs à nous partager le micro.
À l'occasion du 8 mars, nous avons eu la chance de proposer un micro-trottoir dans les rues de Bourg et différents thèmes ont été abordés. Des burgiens ont pris du temps pour exprimer leur position et dans cette émission, nous les écoutons.
Quand je vous dis 8 mars, ça vous inspire quoi ?
Journée internationale des droits de la femme.
C'est une journée significative pour la femme parce qu'il y a beaucoup d'inégalités. Et tant qu'il y aura cette égalité, la femme ne pourra pas être... La femme peut devenir présidente de la République, elle peut faire beaucoup de choses. Et avec cette inégalité, on voit toujours que la femme est toujours en arrière, tout le temps, depuis des décennies, et ça ne peut plus continuer. Donc c'est une journée sacrée de la femme dans le monde.
Qu'est-ce que vous imaginez derrière cet intitulé ?
Ben, qu'on mette les femmes peut-être à l'honneur, savoir comment elles vivent, ce qu'elles ressentent et comment elles sont dans la société, qu'on puisse leur donner la parole.
Selon vous, on en est où sur cette question aujourd'hui en France, sur les droits des femmes ?
Je pense quand même qu'en France, on est privilégié, même si tout n'est pas magnifique, mais on est quand même privilégié par rapport à d'autres pays dans le monde où les femmes sont réduites à rien.
On est en retard. La mixité dans les entreprises.
Les salaires.
Les salaires, la politique, tout ce qui concerne le pouvoir, c'est pas 50-50.
La femme, elle travaille autant qu'un homme, sinon plus des fois parce qu'elle travaille, elle rentre chez elle, elle a ses enfants, elle a les courses, elle fait le repas, enfin elle n'arrête pas la femme. Tandis que l'homme, bon, il met un peu plus la tâche. Mais avant, les hommes, ils s'occupaient de rien, même pas pousser une poussette. Ils faisaient rien, les hommes, à l'époque, quand j'étais petite. Les femmes sont pas assez payées par rapport aux hommes.
Ah ben, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour améliorer. J'ai eu récemment des échos de gens, de femmes qui travaillent, où on sait pertinemment que les salaires sont encore moindres que ceux des hommes. Déjà, rien que ça, il y a du boulot.
Pas seulement l'égalité salariale. L'égalité salariale, c'est une chose, mais aussi l'accès à tous les postes à la même vitesse que les messieurs. Voilà.
Ben moi, je croyais que c'était une histoire réglée et je me suis aperçue qu'elle était toujours d'actualité, alors que dans ma jeunesse, on parlait des droits des femmes et on se défendait. On explorait le monde des femmes et j'étais un peu féministe parce qu'on n'osait pas dire trop.
Je suis un peu inquiet parce que on a pensé qu'à un moment on allait régler cette question et elle ne se règle pas. Elle ne se règle pas. Elle se déplace, mais cette domination-là, elle est comme si elle était structurelle, quoi. Nos sociétés sont des sociétés patriarcales. Et de cette chose-là, quelques-uns se révoltent, le refusent, d'autres ne sont pas pour, mais enfin, ça les arrange bien. Bon, ils sont dans une espèce de consensus patriarcal, consensus où ils s'en accommodent. C'est plus facile de s'en accommoder que de se révolter.
Et voilà un premier micro-trottoir qui permet de brasser plein de concepts, plein de notions, plein de choses qui sont racontées par les passants et passantes qui nous ont croisés à Bourg au mois de mars. Et du coup, toutes ces notions, on va les explorer toutes ensemble au fil de la saison dans les différentes émissions. On écoute un second micro-trottoir. Est-ce que vous pourriez nous citer une femme qui aurait marqué la lutte pour les droits des femmes ?
Bon, Simone Veil.
Simone Veil.
Ouais.
Bah, on pense tous à Simone Veil.
Gisèle Halimi.
Vous avez parlé du collectif et c'est Olympe de Gouges qui revenait.
Moi, j'allais dire Louise Michel aussi.
Ouais. Bah, moi, en tête, là, j'ai Frida Kahlo, mais je ne sais pas après.
Bah oui, un nom qui est revenu quand même très très souvent, bah c'est Simone Veil, comme tout le monde, quoi. Et moi, je me suis posé la question un peu, pourquoi ? Donc, si son nom est cité si souvent, s'il a traversé les années, alors que c'est une personnalité connue, reconnue, bah c'est que c'est un récit qui nous a été conté, qui nous a été reconté, qui a été transmis, reconté encore par l'histoire officielle. Le nom le plus présent dans les médias, sur le fronton des établissements publics, sur les plaques des rues et des avenues, bah c'est Simone Veil. Cette femme publique, bon, donc haute fonctionnaire, magistrate, qui a été ministre de la Santé, qui a porté devant l'Assemblée nationale, sous la présence de Valéry Giscard d'Estaing, la loi qui a dépénalisé le recours à l'interruption volontaire de grossesse, donc l'IVG. Cette loi, elle sera couramment désignée comme la loi Veil. Elle devient alors l'emblème de la lutte contre la discrimination des femmes en France. Mais pour faire avancer le droit, il faut évidemment inscrire ce droit dans la loi, c'est normal. Il faut aussi porter, que ça soit porté par un ou une représentante de l'État. Mais on sait bien que ça ne pourrait pas se faire si en amont, des femmes nombreuses, anonymes, ont fait entendre leur voix dans la rue. La cause est portée par des femmes au devant de la scène. Bon, alors une autre Simone, écrivaine, Simone de Beauvoir, bien sûr, Gisèle Halimi, avocate. On rappelle que lors d'un procès médiatisé, elle a défendu une jeune femme qui avait été accusée d'avortement. Et puis aussi, il y a ces 343 femmes qui ont eu le courage de signer le manifeste « Je me suis fait avorter ». C'était en 71. Elle s'exposait à des poursuites pénales. Souvent, elle pouvait aller en prison pour ça. Et en 71, c'est quand même 4 ans avant la promulgation de la loi. Donc le terrain était bien préparé, quoi. Bon, alors les femmes célèbres, les femmes anonymes, celles qui ont pris la Bastille en 1789, celles qui travaillent au quotidien pour faire appliquer les droits acquis, celles qui simplement vivent librement et sont souvent nos modèles, celles qui savent trouver les mots et puis entraînent les foules, vos noms goûtent toutes des sonorités de tous les continents et nous serons présents pour parler de vous.
Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui sait d'où se défend. C'est Gabrielle ou bien Eva, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger.
"64% des femmes reconnaissent avoir été victimes de sexisme au travail. Blagues, harcèlement, non-accès à un poste, différence de salaire. Est-ce que ça vous parle ? Et est-ce que vous auriez des exemples à nous apporter ?
Ah bah tous les jours. Ah bah, la petite blague relou du collègue, enfin, oui, qui vous drague un peu. Oui, ça je pense ça arrive à beaucoup de femmes. Franchement, je pense que je connais pas une femme à qui c'est pas arrivé. Sans parler d'avance, mais le petit mot un peu relou, entre guillemets, ça arrivait à tout le monde, je pense.
Comment on pourrait faire changer ça ?
Je sais pas.
Aujourd'hui, par exemple, il existe un guide sur la parité dans les entreprises. Vous le connaissez ? Vous l'avez
non,
déjà consulté ?
Pas du tout. Après, moi, voilà, j'ai tendance à dire à nous, les femmes, de rétorquer correctement, de s'imposer, enfin, de se faire respecter aussi. Mais je connais pas du tout ce guide, non.
Il y a beaucoup de gestes qui étaient banalisés. Où il y a beaucoup de paroles. Si on inversait les choses, des paroles d'hommes qui sont dites à des femmes, si, je crois qu'il y a quelqu'un qui s'amusait à ça, à faire l'inverse. Si on parlait comme ça à un homme, mais ça lui paraîtrait aberrant, alors que pour une femme, bah, ça passe. Et je crois qu'il y a beaucoup d'exemples comme ça, où c'est banalisé, parce que c'est une femme. Et c'est inadmissible, bien sûr.
À votre avis, aujourd'hui, les femmes et les hommes, est-ce qu'ils ont le même salaire à qualification
égale ? Ah
bah
absolument pas,
égale.
Non.
Il y a un écart de 24% entre les salaires des hommes
voilà.
et des femmes.
C'est ce que je disais tout à l'heure.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Eh bien, moi, je trouve que c'est toujours pas normal que les femmes soient toujours en bas alors qu'elles travaillent autant. On est resté à l'époque de l'homme macho. Voilà, c'est tout. C'est l'homme qui a le droit de tout faire, d'avoir tout. Et c'est vrai qu'une femme doit garder sa place vis-à-vis de son mari. C'est vrai. Ça, je reconnais qu'on ne doit pas écraser l'homme. Mais au point de vue salaire, ce n'est pas logique.
Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai une petite fille qui a 27 ans et qui est architecte. Et le salaire n'est pas égal aux hommes de sa même capacité. Et c'est quelqu'un qui est vraiment doué, quoi. Alors, je trouve vraiment dommage qu'elle soit moins payée.
Aujourd'hui, 30% des femmes travaillent à temps partiel. Comment vous expliquez ça ?
Je ne sais pas. Mais je pense quand même qu'il y a des structures pour ça, pour que les femmes puissent avoir des horaires à temps plein. Mais à toujours, on leur propose. Ce n'est même pas que ça provient d'elles. Hein. Bon, d'autres ont des enfants, c'est un peu plus compliqué. Mais des fois, c'est même les patrons qui vous proposent à mi-temps, pas en temps...
En temps plein.
J'en pense que c'est une résultante des représentations des femmes qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire, on est encore, malgré tout... rattaché à notre place de femme au foyer, etc., qui est éternelle. Et donc, ça nous empêche de prendre notre pouvoir politique, de prendre notre pouvoir personnel, de s'exprimer en notre nom. Donc, il y a encore des barrières très, très fortes par rapport à ça. Et comme le disait madame tout à l'heure, lorsqu'il y a des enfants qui arrivent au foyer, on se rend compte de la force de ces représentations, parce qu'on se retrouve dans des rôles avec notre vie qui dépend d'un petit être. Et là, même si on est très féministe, on se retrouve dans des schémas auxquels on est parfois obligé d'adhérer parce qu'on a fait ce choix-là. Et par rapport aux retraites, les femmes, c'est celles qui vont prendre le plus de congés par rapport à ce devoir lié aux représentations par rapport aux femmes de s'occuper des enfants. Donc c'est elles qui vont aussi avoir le moins d'annuités. Le calcul est injuste pour les femmes. Souvent, c'est les hommes qui font les contrats d'assurance, pour les voitures par exemple, pour les maisons, etc. C'est souvent au nom du mari encore. Et donc quand les femmes arrivent à la retraite et se retrouvent seules par exemple sans un mari avec elles...
Elles n'ont pas de patrimoine.
Elles ont moins de patrimoine en général. Donc on a une précarisation des femmes, mécanique en fait.
On parle en fait de deux sortes de travail des femmes, le travail rémunérateur et le travail domestique.
Et du coup, si on se concentre sur le plus visible, le travail rémunérateur, comment ça se passe ?
Ce n'est que depuis le 13 juillet 1965 que les femmes mariées sont autorisées à travailler sans l'autorisation de leur époux et à ouvrir un compte en banque en leur nom propre. Depuis 1975, il existe une loi sur l'égalité des rémunérations entre hommes et femmes. Mais aujourd'hui, en France, les femmes gagnent toujours 24% de moins que les hommes. Le taux d'activité des femmes en France est un des plus élevés en Europe. Les femmes occupent majoritairement des emplois non qualifiés, moins rémunérés et plus précaires que les hommes. Le salaire moyen net moyen des femmes est, selon l'INSEE, de 16,8% inférieur à celui des hommes. Et si l'on prend en compte le fait que les femmes sont plus fréquemment à temps partiel, la différence est estimée à 25,7%.
Et pour la retraite ?
Pour la retraite, les femmes partent en moyenne 7 mois après les hommes. 62 ans et 7 mois pour les femmes, 62 ans pour les hommes. Selon le dernier rapport de la Direction de la Recherche et des Statistiques, l'ADRES, la retraite d'une femme est inférieure de 41% à celle d'un homme. Il existe des dispositifs pour l'améliorer. La majoration des trimestres au titre des enfants, les trimestres supplémentaires pour la naissance, l'adoption et l'éducation des enfants. La majoration de trimestres en cas de congé parental d'éducation. La nouvelle loi est par contre très défavorable pour les femmes.
Dans le micro-trottoir, on parle aussi du harcèlement au travail.
Le harcèlement sexuel au travail est aujourd'hui un fait connu de tous, très médiatisé. Le harcèlement sexuel est un délit pénal dont les auteurs peuvent encourir une peine de 2 à 3 ans d'emprisonnement et jusqu'à 45 000 euros d'amende. Ce comportement illégal implique de très graves conséquences pour la santé et l'intégrité des victimes. Pourtant, l'article L1153-5 du Code du travail impose à l'entreprise une obligation de santé et de sécurité à l'égard de ses employés. Mais ce n'est guère respecté.
Et puis, il y a le travail qu'on voit moins, hein, on en parle aussi dans le micro-trottoir, c'est le travail domestique à la maison.
Les femmes passent 2/3 de leur temps travaillé à faire gratuitement du travail domestique. 60 milliards, c'est le nombre d'heures de travail domestique réalisées en France en 2010. 60 milliards d'heures à repasser, faire la vaisselle, la cuisine, passer l'aspirateur et s'occuper des enfants. Une femme vivant en couple et mère d'un ou plusieurs enfants de moins de 25 ans réalise en moyenne 34 heures par semaine de tâches ménagères contre 18 heures pour un homme dans les mêmes conditions familiales. En 25 ans, le temps de travail domestique des hommes n'a augmenté que de 6 minutes. Les tâches domestiques pourraient représenter 33% du PIB. Si chaque heure passée à cuisiner ou à nettoyer était payée au SMIG, cela représenterait 636 milliards d'euros chaque année, soit 33% du PIB. Chaque semaine, le temps que les mères consacrent à ces travaux, 34 heures, est quasiment égal au temps passé par les hommes à effectuer un travail rémunéré, 33 heures. L'économiste Joseph Stiglitz explique que la mesure de la production domestique est plus efficace que le PIB pour comparer les pays entre eux. Le travail des femmes sera peut-être un jour prochain l'indicateur de la croissance économique d'un pays.
Et c'est souvent quand on fonde une famille qu'on prend conscience de ces écarts et que ceux-ci se creusent. On retrouve ces écarts également en matière de temps libre. Les femmes y consacrent en moyenne 2h45 par jour contre 3h20 pour les hommes. D'ailleurs, quel regard ont les passants et les passantes sur le rôle de parents ?
Papa, maman, pour vous, c'est le même rôle ? Oui ou non ?
Oui, aujourd'hui, oui. Plus qu'il y a quelques années en arrière.
Ok, vous pouvez expliquer ?
Je pense qu'à l'époque, les enfants étaient plutôt laissés à la charge de la maman. Elle restait plutôt au foyer pour s'occuper des enfants et le papa allait au travail. Aujourd'hui, on est plus sur une mixité par rapport à ce rôle de parent. Et le papa a plus sa place auprès de son enfant, autant que la maman.
Pourtant, les chiffres ne sont pas du tout raccord avec ce que vous venez de nous raconter. Hein. Quand on voit les tâches ménagères, elles sont pourtant plus gérées par les femmes. La gestion des enfants, qu'est-ce que vous en pensez au regard de ces chiffres ?
Ce n'est pas le cas chez moi. Non, la question, je pensais plus par rapport à la charge, à s'occuper des enfants. Après, par rapport aux tâches ménagères, je ne sais pas.
Vous pensez que dans un couple hétéro qu'on imagine papa-maman, les tâches ménagères sont bien réparties ?
Non, peut-être pas, non. Aujourd'hui, on voit plus d'hommes qui cuisinent qu'avant, déjà. Mais après, au niveau des tâches ménagères, c'est peut-être... J'avoue que pour ma part, c'est pas forcément équitable. Je le reconnais.
Papa ne doit pas avoir le même rôle que maman. Papa, il est le chef de la famille. Et papa restera toujours le chef de la famille. Papa, c'est lui qui se lève matin. Il va au service, il va travailler. Voilà. Bon, ça, je parle précisément dans un couple où le monsieur travaille et puis la femme, pour l'instant, elle ne travaille pas d'abord. C'est le père qui va au service. Il va travailler et... dans l'optique de satisfaire maman.
C'est pas le même rôle. La façon dont les rôles sont assignés, elle est très, très normative. On parlait de... aussi, il y a le regard des autres aussi. J'ai un fils qui a lui-même un fils. Il va le chercher à la crèche. Et qu'est-ce qu'on lui dit ? Vous direz à maman qu'il faut laver le pantalon. Il répond, je sais pas laver un pantalon. Voilà. Vous direz à la maman.
Marie, un concept qui résonne avec les infos données par Michel sur le travail domestique et puis ces propos là qu'on vient d'entendre.
Oui, la charge mentale. Ce concept est revenu sur le devant de la scène grâce à Emma avec sa BD du même nom. Ce terme a même fait son entrée en 2020 dans le Petit Larousse illustré. Et pourtant, c'est dès 1984 que la sociologue Monique Hainaut a introduit ce terme. Elle explique que l'esprit de beaucoup de femmes reste préoccupé toute la journée par la gestion du foyer. Penser à prendre un rendez-vous chez la pédiatre, faire les courses de la rentrée, la chemise du conjoint à repasser, s'occuper des repas de la semaine. Cette charge mentale peut être comparée à une longue liste de choses à faire inscrites dans la tête de nombreuses femmes. Emma insiste sur le fait que vivre en couple, créer une famille, c'est œuvrer ensemble vers un même but, en coopérant. Il lui semble que certains hommes considèrent les femmes comme les chefs du projet gestion maison et qu'ils se considèrent eux-mêmes comme exécutants. Les femmes se retrouvent à devoir penser à tout, l'ensemble des tâches à accomplir pour le foyer, ainsi qu'à demander à leur conjoint de les exécuter. Dans sa BD, elle pointe différents stéréotypes auxquels sont confrontés les enfants dès leur plus jeune âge. Sur Instagram circule une anecdote. Un petit garçon se promène avec une poupée dans une poussette. Il croise une personne qui lui dit « Ah, tu joues à la maman ?» Le petit garçon lui répond « Bah non, je joue au papa. » C'est notre rôle à nous, adultes d'aujourd'hui, de changer notre regard sur le monde. Un enfant fait les choses par mimétisme. S'il observe son papa faire à manger, il aura envie de l'imiter.
Et Emma, l'illustratrice, ne s'arrête pas là.
Dans une autre de ses œuvres, intitulée « Ça se met où ?», Emma explique que l'un des arguments utilisés pour justifier le désinvestissement des hommes est...
Lapsus révélateur, Marie.
Et que les torts sont généralement partagés. Les hommes en feraient moins que leurs compagnes parce que ces dernières sont trop dans le contrôle. Pour Emma, si les femmes continuent aujourd'hui à assumer la majorité des tâches domestiques, c'est surtout parce qu'elles sont pénibles à réaliser, qu'elles ne sont pas rémunérées, pas valorisées, mais qu'il faut bien les faire tout de même. Elle pointe les différentes techniques conscientes ou non utilisées par certains hommes pour échapper aux tâches ménagères. La résistance passive, la mauvaise humeur, l'absence totale d'autonomie ou encore l'incompétence pure et simple. En mélangeant tout type de linge dans la machine, en demandant la liste de courses à faire, en disant qu'ils n'aiment pas telle ou telle tâche ou alors en mettant énormément de temps à la réaliser. Ils parviennent finalement à échapper aux corvées.
Bon, et alors, y a des solutions ?
Alors, consciente de chambouler beaucoup de conceptions du rôle de chacun dans un couple, Emma propose tout de même des pistes de solutions possibles à mettre en place chez chacun. Elle raconte qu'avec son conjoint, ils ont fait une liste des différentes tâches ménagères à effectuer dans une journée ainsi que sur une semaine, tout en précisant le temps de chaque tâche, le temps que chaque tâche prend, afin de se les répartir équitablement. Elle rêverait pourtant de ne pas avoir à en passer par là. Ces BD sont des petites gouttes d'eau dans la mer, mais espérons qu'elles fassent effet boule de neige dans le futur. Certains hommes lui ayant en effet avoué s'être pris une claque, alors que d'autres ont commenté qu'ils n'étaient heureusement pas concernés.
Alors personnellement, on l'entend hein, aussi dans le micro-trottoir, hein, j'ai parfois l'impression qu'on n'arrivera jamais à faire changer les mentalités autour de la parentalité, de la séparation des tâches, la gestion des tâches. Enfin, on est en 2023, alors oui, les papas sont plus présents, ils changent les couches, ils jouent avec leurs enfants, vont parfois les récupérer à l'école ou chez Nounou. Joël, quand on a préparé l'émission, tu parlais, toi, des papas poussettes ?
Ah oui, c'était super, parce que le jour où on a fait les enregistrements, il y a un papa qui sortait du conservatoire avec une poussette, un petit qui était dedans, et moi je me suis dit, ben voilà, c'est l'exemple rêvé. Donc je lui ai dit, ben passez au micro, vous avez un peu de temps, et lui, il me dit, ben écoutez, non, c'est mercredi, moi je vais au marché, là j'ai juste le temps avant de récupérer le plus grand. Et donc du coup je trouvais que c'était s'occuper des enfants c'est un travail à temps plein, hein. C'est ce qu'on a toujours dit.
Ouais, moi je les vois aussi, hein, c'est papa poussette, mais moi à chaque fois que je les vois, alors vous allez dire hein, j'ai l'esprit mal placé, hein, mais je me dis qu'on est tout en train de se dire waouh, il va au parc tout seul avec son enfant. Et on ne se dit pas ça quand on va croiser une maman poussette. Enfin, pour nous, ça nous paraît normal. Et aussi, il y a quelque chose que je me dis toujours. Je vois toujours la femme qui est derrière l'organisation du papa poussette. C'est-à-dire que, est-ce que le papa poussette a eu besoin de maman pour préparer le sac, penser à prendre le biberon, la casquette, quand c'est l'été, la crème solaire. Enfin, voilà. C'est une thématique sur laquelle on reviendra. Hein, puisque là, on parle de parentalité sur un modèle d'un couple hétérosexuel. Sexuel, papa-maman. Moi, j'aimerais bien qu'on se pose la question aussi de comment ça peut fonctionner dans d'autres modèles de famille, dans des couples différents. J'espère qu'on pourra l'aborder à nouveau.
Que pensez-vous de la contraception masculine ? Vasectomie, slip, chauffant.
Est-ce que vous en avez entendu parler ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, oui. Ouais.
Et sur les contraceptions, c'est vrai que dans la majorité des cas, souvent on pense que c'est à la femme de se protéger et d'assurer la contraception. Il y a beaucoup d'idées reçues. Mais je pense que les nouvelles générations vont... Enfin, il me semble que dans les nouvelles générations, moi je pense à mes fils par exemple, ça change, ça évolue. C'est plus quelque chose qui se partage et qu'on vit à deux. Et c'est pas seulement de la responsabilité des femmes que la contraception est pas seulement de la responsabilité des femmes.
La contraception masculine, presque un sujet tabou pour certains. D'ailleurs, on en entend peu parler et pourtant des moyens existent. La saison dernière, j'ai rencontré le médecin urologue Jonathan Marguin. Il travaille au centre hospitalier de Flériat. Il m'avait consacré du temps pour parler contraception au masculin et voici les solutions qui existent. Donc, le préservatif, les injections de testostérone. Alors, c'est lourd, faudrait le faire toutes les semaines. Autant vous dire que pour le moment, très peu de candidats. La méthode thermique, ou ce qu'on appelle dans le langage commun le slip chauffant. Donc ici, le but, c'est d'augmenter la température au niveau des testicules pour bloquer la fabrication de spermatozoïdes. À noter que pour le moment, c'est impossible d'acheter un slip chauffant. Il faut le fabriquer soi-même. Mais il y a des tutos sur Internet, hein, vous pouvez les jeter un œil. Idem pour l'anneau AndroSwitch, qui était en vente, mais qui a été retiré de la vente en 2021 parce qu'il ne respectait pas les normes européennes. Donc techniquement, c'est un anneau qui s'insère au niveau des testicules et qui permet de remonter les testicules pour empêcher la production de spermatozoïdes. Et puis la dernière technique, c'est la vasectomie. Donc ça, tout le monde la connaît, tout le monde la craint. Donc c'est une opération chirurgicale qui consiste à couper le canal déférent. En gros, c'est la voie de cheminement des spermatozoïdes entre la prostate et les testicules. Elle dure 15 à 20 minutes, cette opération, a très peu d'effets secondaires, ceux d'une opération classique, et ça ne change rien à la sexualité des hommes, puisqu'ils continueront d'avoir les mêmes érections qu'auparavant, éjaculeront toujours, simplement, il n'y aura plus de spermatozoïdes dans l'éjaculat. C'est une opération irréversible. Alors attention, pour ce projet, il faut donc rencontrer le médecin urologue, il y a ensuite un délai de 4 mois, donc le délai de réflexion, avant l'opération. Et donc, si on a envie d'avoir des enfants après cette vasectomie, comment on fait? Eh bien, l'urologue va vous proposer, lors de votre premier rendez-vous, de congeler votre sperme en vue d'une procréation future. Donc, il y a quand même possibilité d'avoir des enfants pour le monsieur, s'il le souhaite, après. Et donc, comme notre monde n'est toujours pas parfait, figurez-vous que j'ai découvert dans un article du magazine en ligne Slate que cette proposition faite aux hommes d'assurer leur coup, si je peux m'exprimer ainsi, dans le futur, n'est pas du tout prévue pour des femmes qui auraient recours à une ligature des trompes. Donc, la raison invoquée, c'est que le processus médical pour récolter les ovocytes serait bien trop long, donc coûteux. Et il faut savoir quand même que dans certains pays, c'est OK. Les gouvernements se sont penchés sur la question et ont décidé de laisser le choix aux patientes de s'inscrire dans un processus long et coûteux. Donc, à voir comment ça se passera en France.
Ouais. En tout cas, la thématique de la santé et des femmes, la santé des femmes, c'est en préparation pour l'émission dans l'année.
Si on vous dit droit des femmes à l'international, à quoi vous pensez ?
Le droit des femmes à l'international. À quoi je pense ? Ben en fait, à la liberté, au droit d'expression des femmes dans le monde.
Est-ce qu'il y a un pays qui vous vient, des images qui vous viennent en tête ?
Ben, les images, les seules images qui me reviennent, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, comme je vous ai dit, en Afghanistan, qui a énormément, je pense, choqué le monde par rapport à ce changement. Voilà, c'est ce qui me revient par rapport à quand je pense aux femmes, voilà, qui ne peuvent plus chanter, danser, faire ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, comme en France, qui est l'un des pays, c'est peut-être le premier pays des droits de l'homme et des femmes.
Ah oui, parce qu'être être femme dans de nombreux pays aujourd'hui, c'est ne pas exister dans la société civile. C'est n'être qu'un ventre de reproduction, sans avoir le droit à l'éducation ni au savoir. C'est être effacé, enfermé entre les murs de sa maison ou alors des fois être esclave entre d'autres murs, d'autres maisons. Le collectif a invité en avril dernier Sarah Iravani, elle est iranienne, elle est venue nous dire l'histoire de la lutte des femmes en Iran. Et en fait, c'est un pays très éclairé qui a permis à de nombreuses femmes de s'éduquer, d'accéder à la contraception. Et puis la situation a changé. Elle a changé. En 2023, l'Iran est devenu très souvent dans l'actualité. Par exemple, des systèmes informatiques surveillent les tenues réglementaires des femmes dans la rue. Ça a été installé. Dans les villes, on gaze les filles, les jeunes filles qui sont dans les écoles. Oh, à côté de l'Iran, pays mitoyen, il y a l'Afghanistan. Donc il y a eu un documentaire là, qui avait été fait par Solène Chalvon-Fioriti qui a tourné des images sur la vie des femmes dans ce pays, qui a été diffusé l'année dernière sur France TV. Ça s'appelait Le Monde en face, Afghan. Il montre l'enfermement des Afghanes depuis le retour des talibans. Et là, ça fait juste 2 ans qu'ils sont au pouvoir. Et pour répondre à ces nouvelles de l'étranger, nous viennent des voix de résistance, des luttes, que ce soit des femmes russes en ce moment, qui par des actes symboliques ou de résistance active agissent contre la guerre. Aux Comores, par exemple, il y a des femmes qui font partie d'un collectif qui s'appelle « Lève-toi ». Elles ont décidé de se lever pour le droit des femmes comoréennes contre les violences sexistes ou institutionnelles. Il y a évidemment l'Iran. Les femmes brûlent leur hijab. Au Soudan, leur combat contre la dictature se poursuit dans les rues. En Afghanistan, elles résistent aux talibans qui veulent les exclure de la société. Et malgré la répression et les violences dont elles sont menacées, malgré la peur et la précarité, ces femmes, elles sont souvent à l'avant-garde de la contestation. Et tout au long des émissions, nous nous ferons l'écho de la lutte de ces femmes sur le chemin de la liberté.
Nous sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Nous fous, nous femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, asservies, humiliées. Femmes achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout.
81% des femmes déclarent avoir déjà été victime de harcèlement sexuel dans les lieux publics. 81%. Donc la rue, le bus. Qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre ?
C'est beaucoup. C'est énorme et ça fait... moi je me dis, ça, en fait, c'est 4 femmes sur 5, en fait. Alors que normalement, les lieux publics, on est censé se sentir en sécurité. Donc c'est pas normal que malheureusement les femmes subissent ce genre de choses. Je pense qu'il y a vraiment une remise en question à faire, et puis des mieux apprendre le respect aux gens qui font ce genre de choses, en fait.
Justement, en tant qu'homme, comment vous vous sentez aujourd'hui ? On parle de plus en plus de ces histoires, du rôle aussi de l'homme, de comment l'homme doit se situer, comment les garçons doivent être éduqués. Vous en avez un petit peu parlé là, à la fin de votre question. Comment vous voyez tout ça, vous, avec votre regard d'homme, si je peux vous définir comme ça ?
Oui, oui. Bah, moi, j'ai été élevé par ma mère qui était célibataire. Donc on était, excusez-moi, quatre enfants. Donc moi l'aîné, ma sœur et mes deux petits frères. Et nous avons déjà toujours appris le respect envers les autres et puis le respect aussi des femmes, tant bien que les hommes aussi. Mais c'est vrai qu'effectivement il y aurait quelque chose à faire en plus. Et malheureusement, pas tout le monde inculque le respect.
Oui, général, en fait. Voilà. Homme ou femme, on respecte l'autre. De votre côté, donc ce chiffre, 81% des femmes victimes de harcèlement sexuel dans l'espace public, comment on sent quand on est une femme, en plus une jeune femme aujourd'hui, dans les rues, dans le bus ?
Bah, honnêtement, j'aurais pensé que ça aurait été plus. Quand on parle juste entre nous, on se rend compte que je crois que j'ai jamais parlé avec une seule de mes amies qui n'a jamais vécu l'harcèlement de rue. C'est des sifflements, des insultes, on nous suit, parfois même c'est des agressions. Et clairement, moi, à chaque fois que je dois prendre le bus, c'est des regards à droite, à gauche, c'est toujours une paire de ciseaux dans le sac au cas où. C'est quand je finis le travail tard, je rentre jamais seule le soir. C'est toujours une peur. Toujours, même quand on est à plusieurs, on a toujours peur. Et on définit un peu notre vie en fonction de ça. Toujours avoir une veste dans son sac quand on rentre tard le soir. Je connais des amis qui rentrent, qui prennent le train, qui se changent avec une grosse veste, un gros survêtement. Et c'est triste d'en arriver à là, mais on ne peut pas faire autrement actuellement.
Alors oui, on ne peut pas faire grand-chose, mais quand même s'informer. Il existe un site stopharcèlementderue.org et voici une citation qui permettra peut-être d'ouvrir la réflexion. La drague est une main tendue, le harcèlement est une main qui s'abat. Simplement, il faut savoir que la loi est claire. Le harcèlement de rue est reconnu comme une infraction sous les termes d'outrage sexiste, c'est-à-dire le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui, soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. C'est un sujet qui me semble important à analyser. J'espère qu'on pourra aussi l'aborder dans une prochaine émission. Illustration en quelques minutes musicales de ce que peuvent vivre les femmes dans la rue avec le titre « Salut » de Suzanne.
Tu vas au boulot, tu marches seul. À la hauteur du H&M, y a un type qui gueule. Salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour le 4 heures. T'es si appétissante, je te ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Ben pourquoi tu marches plus vite? Je t'ai pas agressé, je t'ai même fait des compliments. Tu pourrais au moins t'arrêter. Comment ça, t'as pas le temps? Et t'es pas célibataire, tu sais. Moi, je suis pas jaloux, viens dans mon lit, ça va te plaire. S'il faut arrêter de te plaindre, là, tu l'as bien cherché. T'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever. Les filles comme toi, c'est dangereux. Pire que le mal incarné. Et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé. Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche sur trottoir d'à côté. T'es une pouf, c'est devenu courant de l'entendre trois fois par journée. T'as un hum, peut devenir violent si tu donnes pas le vrai. Bats-toi, fille.
Fin de cette première émission. Merci à toutes celles, à tous ceux qui ont accepté d'échanger avec nous pour le dernier 8 mars qui s'est passé. Et puis à bientôt, car il n'y a pas que le 8 mars.
Et merci aux personnes qui ont préparé et participé à cette émission. Merci à Jimmy à la technique. Et on se retrouve le mois prochain.